cette chronique animalière aujourd'hui, je retiens fourmis et papillons pour une étrange manière de parasitisme, de commensalisme très appuyé. Question, quoi de plus sûr qu'un nid de fourmis ? Cette forteresse est défendue par une armée prête à se sacrifier pour la reine et sa descendance. Les intrus n'y sont admis que sous forme de nourriture, à moins d'être passés en experts en imitation. Quelques 10 000 espèces d'arthropodes parasites y sont parvenues, ayant acquis soit la capacité d'exsuder des molécules chimiques, molécules similaires à celles que leurs hôtes utilisent pour se reconnaître, ces sortes de cartes d'identité par phéronome, et surtout, là est la malice suprême, la faculté d'émettre des sons comparables à leurs commensales. C'est le cas de certaines larves de papillons capables de reproduire assez fidèlement les stridulations minuscules des ouvrières et de leurs reines. Les larves du papillon maculinéa ou le papillon azuré peuvent ainsi passer une bonne partie de leur vie dans la sécurité obscure des nids du genre Myrmica après avoir adopté, entre guillemets, grâce à leur don d'imitation sonore, si l'on peut dire. Les azurés sont considérés comme menacés en Europe en raison de la biologie particulière qui est la leur et qui les rend doublement vulnérables aux changements d'environnement. Les adultes se nourrissent d'une plante hôte et leurs larves doivent ensuite trouver leur place dans une colonie de fourmis, Maculinea halcon, qui prise les gentianes. Et puis aussi Maculinea teleus, dit cette fois papillon azuré, de la sang, alors tout est difficile à prononcer, sanguisorbe. Sont des intrus, donc dans ce cas-là, sont des intrus aux mœurs différentes. Le premier, donc, de ces parasites-là, qui donc est un papillon en instance de devenir gros, a plutôt adopté le mode coucou, qui se contente de se faire nourrir très simplement par les fourmis, tandis que le second, lui, est un prédateur masqué. Lui, il se repaît, une fois dans la place, des œufs et larves de ses hôtes. Donc d'un côté, le coucou gentil qui profite, et de l'autre, un sacré prédateur. Les chercheurs ont tenté de préciser la stratégie d'imitation vocale en transplantant en laboratoire des colonies de l'espèce Myrmica scabroninodis, qui accueille les deux espèces de papillons. Les stridulations de ceux-ci sont été enregistrées avant et après adoption, puis comparées à celles des ouvrières et des reines fourmis. Le second volet a consisté à exposer les fourmis à ces différents stimuli et à étudier leur comportement. Nous avons trouvé que les émissions acoustiques des larves sont plus proches de celles des reines que des ouvrières, précise l'un des chercheurs. En playback, les ouvrières répondaient plus fortement au son émis par l'azuré, le coucou donc après adoption, de même que ce qu'a su enregistrer avant toute rencontre de l'azuré, le fameux prédateur avec ses futurs hôtes. D'ailleurs, cette étude constitue une situation expérimentale qu'on peut qualifier de très élégante et qui complète des travaux sur le même thème parus en 1909 cette fois. En 2009, pardon. Elle permet de constater que chez la chenille prédatrice, le mimétisme des molécules et des sons est moins marqué que celui dont est capable la chenille coucou qui utilise aussi la chimie pour se faire adopter rapidement une fois tombée de sa fameuse plante de prédilection. Sans doute, dans ce cas, l'imitation est-elle plus poussée parce qu'elle réside au cœur du couvain et doit susciter chez les ouvrières des réactions de nourrissage identiques à celles dont profitent les reines. Vraiment, vraiment, encore une fois, les malices du parasitisme sont comme infinies.